Je suis dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean. Lazare, l'ami de Jésus, est mort et enterré. Ses deux sœurs ont bien fait appel à Jésus, mais trop tard, à moins que... Et je continue le texte. Après avoir dit cela, Jésus ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » Versets 11 à 12. Comme de coutume, les disciples prennent les paroles de Jésus dans leur sens littéral. Le sommeil est l'abandon de toute activité. C'est le repos réparateur en vue du travail à faire le lendemain. En fait, le Seigneur utilisait cette image pour dire qu'en sa présence, la mort n'a qu'un pouvoir temporaire limité sur l'être humain. Le sommeil est une référence au corps du défunt qui reste endormi et désintégré en poussière, jusqu'à la résurrection où il reprendra vie, mais sous une toute autre forme, comme je l'ai déjà expliqué la dernière fois. À cette époque, le sommeil était une façon courante de décrire la mort. Il en est d'ailleurs de même tout au long du Nouveau Testament, en ce qui concerne les croyants. Ainsi, le corps de celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ s'endort et sera réveillé par son Seigneur qui seul possède le réveil matin capable d'accomplir un tel prodige. Il possède l'exclusivité du pouvoir de ressusciter les morts. Cependant, lorsqu'un chrétien meurt, son âme désincarnée entre immédiatement dans la présence de Dieu. Il monte alors sur une estrade où il est évalué afin de recevoir, ou pas, un certain nombre de récompenses et de couronnes en fonction de la fidélité qu'il a montrée à son maître durant sa vie terrestre. Nous verrons ces enseignements en détail lorsque je commenterai les lettres de l'apôtre Saint Paul. Voilà donc en gros comment ça se passe dans l'au-delà pour quelqu'un qui a mis sa confiance en Jésus-Christ et qui meurt. Je continue le texte. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors, il leur dit clairement, « Lazare est mort, et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. » Versets 13 à 15. La mort est une réalité terrible, mais on ne peut s'en protéger indéfiniment. Tout au plus, arrive-t-on à gagner un peu de temps grâce aux dernières découvertes de la science médicale et de l'acharnement thérapeutique. Mais, tôt ou tard, tous les efforts humains finissent toujours par céder le pas à la dame à la faux. Alors, c'est fini. On débranche tous les appareils et on réserve une place au cimetière. La mort a régné en despote suprême jusqu'à ce que le Christ triomphe d'elle par la résurrection. La maladie et le décès de Lazare ont été en quelque sorte orchestrés pour le bénéfice des apôtres. Son retour à la vie est un avant-goût de la victoire du Seigneur et de la mienne sur notre plus grand ennemi, la mort. Si les disciples comprennent ce que Jésus va faire, ils seront une nouvelle fois éclairés sur sa véritable identité ainsi que sur ce qui va lui arriver bientôt, puisque lui aussi reviendra à la vie, mais à la différence de Lazare, avec un corps de résurrection. Dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé « les premiers fruits de la moisson ». Je continue le texte. Thomas, surnommé « le jumeau », dit alors aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » Verset 16. Ce cher disciple est surtout connu pour son incrédulité. C'est lui qui a clamé haut et fort qu'il ne croirait pas en la résurrection du Seigneur s'il ne le voyait pas de ses yeux et s'il ne mettait pas ses doigts dans les marques des clous. Cependant ici, il est sincère, courageux et montre son engagement à l'égard de Jésus, quitte à devoir mourir martyr lui aussi. Sa déclaration est prophétique, car c'est ce qui va éventuellement lui arriver ainsi qu'à tous les autres apôtres, à l'exception de Jean. Je continue. À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Verset 17. La mention de 4 jours est significative. L'influence païenne se faisait sentir en Israël, car à cette époque, certains pensaient que l'esprit du défunt restait pendant 3 jours près du corps avant de s'en aller pour de bon. À côté de cette croyance, on avait l'habitude d'enterrer les morts le jour même du décès parce que le climat de la Palestine est très chaud, ce qui fait qu'un corps se décompose rapidement. La mort est l'imprimatur de la malédiction divine sur l'humanité. Je rappelle la déclaration de Dieu à nos premiers parents. « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Fin de citation. Je continue le texte. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour les consoler à l'occasion de la mort de leur frère. Versets 18 et 19. Le fait que Béthanie n'était qu'à 3 kilomètres de Jérusalem explique pourquoi beaucoup de Juifs de cette ville étaient sur les lieux lorsque Jésus fit ce grand miracle. Les cérémonies de deuil duraient parfois jusqu'à une semaine et impliquaient non seulement la famille, mais aussi toute la communauté. Elle commençait par une période de lamentation, puis de pleurs et de consolation. La famille faisait appel au service de musiciens et de femmes pour pleurer près de la tombe. Tout cela faisait alors partie du travail de deuil. Bien sûr, les autorités religieuses auront vent de l'affaire, et tel un nid de frelons secoués, ces chefs du peuple seront rendus furieux par ce prodige. En définitive, c'est ce miracle qui va mettre le feu aux poudres et déclencher la dernière bataille entre la faune religieuse et le Seigneur. Elle conduira Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, à la croix, accomplissant ainsi les prophéties et le plan de Dieu pour le salut de tous ceux qui croiront en lui. Je continue le texte. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Versets 20 à 22. Le portrait des deux sœurs correspond bien à l'incident que j'ai précédemment mentionné. Marie est calme et réservée, tandis que Marthe est une femme battante qui alla au-devant de Jésus. Cependant, l'accueil qu'elle lui fait est une confession de foi. Elle croyait que le Seigneur aurait pu guérir son frère s'il avait été présent, ce qui montre que pour elle, Jésus était un grand prophète, sans l'ombre d'un doute, mais elle n'a pas encore compris qu'il est Dieu fait homme. Ceci dit, au niveau de sa perspicacité spirituelle, elle a quand même 2 longueurs d'avance sur les disciples. Je continue. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Versets 23-24. La promesse de Jésus, ton frère reviendra à la vie, prépare le terrain pour la conversation qu'il va avoir avec elle, et par laquelle il va se présenter comme l'essence de la vie. Mais, en cet instant, Marthe ne pensait pas du tout en termes d'un retour à la vie immédiat pour son frère. Elle croyait, comme tous les Juifs pieux, à la résurrection au dernier jour, loin, dans le futur. Elle ne voyait pas comment Jésus pouvait faire quelque chose maintenant, et ne s'attendait qu'à des paroles de consolation de sa part. Je continue. « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Versets 25 et 26. C'est ici la cinquième grande révélation commençant par « Je suis ». Ces paroles fabuleuses ont été répétées des millions de fois lors d'enterrements. En fait, on les entend même fréquemment dans les films lorsque dans le scénario, quelqu'un est mis en terre. Jésus dit qu'il est celui en qui se trouve la vie et en même temps celui qui donne la vie éternelle. Celle-ci commence dès à présent et continue au-delà de la mort, qui n'est en fait qu'un sommeil temporaire pour le corps décomposé, jusqu'à la résurrection des justes pour la vie. Au moment de la mort du croyant, son âme, c'est-à-dire la partie spirituelle de son être, s'en va pour demeurer dans la présence du Seigneur. Suite à son affirmation « Je suis la résurrection et la vie », celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Jésus a posé cette grande question à Marthe. Crois-tu cela? Mais il s'adresse aussi à moi, à vous, à nous tous. Je continue. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Verset 27. Cette jeune femme fait une grande confession de foi en Christ. Elle était d'accord avec son exposé sur la vie éternelle pour ceux qui croient en lui. Elle déclare ensuite trois vérités concernant Jésus. Il est le Christ, c'est-à-dire le Messie qui devait venir, le Fils de Dieu, qui est un de ses titres messianiques, et il est bel et bien celui qui devait venir, ce que les Juifs, soi-disant, attendaient. Elle croyait tout à fait qu'il était authentique, venu de Dieu pour accomplir sa volonté. Mais elle n'en réalisait pas pleinement les implications et ne soupçonnait aucunement le miracle qu'il s'apprêtait à faire envers son frère. Je continue. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et l'ayant prise à part, elle lui dit « Le maître est là et il te demande ». À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Versets 28 à 30. Le fait que Jésus soit appelé ici le maître mérite d'être remarqué. Contrairement aux habitudes des rabbins itinérants de son temps, Jésus avait des femmes pour disciples et ses deux sœurs en font partie. Apparemment, Jésus désire un entretien privé avec Marie. Son but était, sans aucun doute, de la réconforter et de l'instruire. Je continue. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Versets 31 à 32. Le départ soudain de Marie pour aller à la rencontre de Jésus provoqua une réaction parmi la foule de consolateurs juifs qui la suivirent. Il n'était donc plus question d'avoir un entretien privé avec Jésus. Une fois déjà, elle s'était assise à ses pieds pour écouter son enseignement. Cette fois-ci, elle se jette à ses pieds. Elle accueillit le Seigneur de la même façon que sa sœur. Elle sentait que la tragédie aurait pu être évitée s'il avait été présent. Bien que sincère, sa foi était limitée. Je continue. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ? » demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Versets 33 et 34. Contrairement à l'apathie et le manque d'émotivité des dieux grecs dont les Juifs étaient entourés, Jésus est profondément troublé dans son esprit devant la mort qui cause une telle tristesse à ses amis et qui demeure une ennemie terrible pour chacun de nous. Cette réaction très humaine de Jésus atteste de la réalité de son union avec les hommes. Le Seigneur des cieux n'était pas seulement une belle auréole qui flottait ici et là sur la surface de la terre, mais il compatissait réellement à notre peine. Je continue le texte. Jésus pleura. Alors tous dirent, « Voyez comme il l'aimait !» Quelques-uns remarquaient, « Il a bien rendu la vue à l'aveugle, n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» Versets 35 à 37. Alors que l'apôtre Jean présente Jésus comme le Fils de Dieu, de la même nature que l'Éternel de l'Ancien Testament, il le montre aussi dans toute son humanité. Cependant, sa peine différait de celle des autres personnes. En effet, ses pleurs silencieux contrastaient avec leur grande lamentation bruyante, et il n'était pas attristé pour les mêmes raisons que la foule de consolateurs qui interpréta ses larmes comme une manifestation d'amour envers son ami Lazare, et aussi une manifestation de frustration de ne pas avoir été là pour le guérir. Mais il se trompait. En réalité, Jésus pleurait à cause des conséquences tragiques du péché qui se révèlent si cruellement dans la disparition d'un bien-aimé. Aujourd'hui, il est de mauvais ton de parler de la mort. On l'occulte un maximum. Pour adoucir le choc du décès, les pompes funèbres embaument le défunt, maquillent son visage, le revêtent de beaux habits et le placent sur du satin délicat dans un cercueil au bois poli et ciré, et l'ensemble au milieu de fleurs magnifiques. Quand il y a un service funèbre, l'officiant fait de son mieux pour donner une homélie qui rend hommage aux disparus. Non pas que ce cérémonial soit inutile, puisqu'il fait partie du travail de deuil, mais c'est tout du décor, quand même. Cette personne est partie pour toujours, et ce corps a déjà commencé sa lente décomposition. Alors pour bien faire, c'est lorsque je suis encore vivant qu'il me faut préparer ce grand voyage dans l'au-delà, d'où personne ne revient. Je continue le texte. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre !» dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir, cela fait 4 jours qu'il est là. » Versets 38 à 39. Les sépulcres étaient souvent taillés dans la pierre à chaux ou aménagés dans des grottes naturelles dont l'entrée était fermée par une grosse pierre ronde et plate. Jésus ordonna qu'on l'enlève, mais il y eut un temps d'hésitation. En effet, ceux qui ouvriraient l'entrée du sépulcre allaient se souiller rituellement en entrant en contact avec ce lieu considéré comme impur, selon la loi. Voici en effet ce qu'elle dit. « Si quelqu'un bute sur des ossements humains ou sur une tombe, il sera impur pendant 7 jours. » Fin de citation. La scène était des plus dramatiques. La foule observait et écoutait. Marie pleurait et Marthe objectait qu'après 4 jours, le corps était déjà putréfié. Je continue. Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Verset 40. Jésus rappelle à Marthe la promesse qu'il lui avait faite plus tôt. Si elle croyait à ses paroles, « Je suis la résurrection et la vie. » Et si elle plaçait sa confiance en lui, elle verrait la gloire de Dieu. Ceci dit, les sœurs avaient suffisamment foi en Jésus pour autoriser l'ouverture du sépulcre. Le suspense était à son comble. Le silence lourd, le temps suspendue et la tension telle qu'on aurait pu la couper au couteau. Les Juifs rassemblés ne savaient pas à quoi s'attendre. Ils étaient comme en transe catatonique, les yeux fixés sur la pierre qu'on faisait rouler et sur Jésus qui était là, devant, immobile. Je continue. On ôta donc la pierre. Alors, Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Versets 41 et 42. Lorsque la pierre fut ôtée, la tension monta encore d'un cran. Qu'est-ce que Jésus allait faire? Dans sa prière d'action de grâce, toute simple, le Seigneur s'exprime à haute voix pour le bien de ses auditeurs afin qu'ils sachent qu'il n'agit pas de sa propre initiative, mais au nom du Père. Il rappelle ainsi l'harmonie et la communion qui caractérisent sa relation avec lui. Le fait que sa requête sera exaucée donnera à la foule une preuve incontestable qu'il avait été envoyé par le Père et amènerait éventuellement certains Juifs à croire en lui. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.